19h sur France Bleu, le journal.
Bonsoir à toutes et à tous. Deux morts dans le tremblement de terre qui a frappé l'île d'Ischia en Italie. Une famille entière a échappé aux décombres. Antonino Gallofaro nous racontera. Les quatre suspects survivants après l'attentat de Barcelone sont inculpés d'assassinat terroriste. 12 Français sont toujours hospitalisés. À Balaruc, dans l'Hérault, le maire équipe sa station thermale de bancs anti-intrusion, histoire de décourager d'éventuelles voitures béliers. Et ça plaît beaucoup aux passants. Les serveurs dans les cafés ont de moins en moins de pourboires. Les professionnels proposent d'inclure le service dans la note. Ça remotiverait les jeunes, disent-ils. On cherchera à comprendre ce qui a poussé ce vétéran américain de 96 ans à faire croire à tout le monde qu'il a participé au débarquement en Normandie en 1944. Et puis on ira encourager l'équipe de France féminine de rugby qui affronte l'Angleterre ce soir en demi-finale de la Coupe du Monde. Fanny Lechevestrier est à Belfast pour France Bleu.
France Bleu Soir. France Bleu Soir. Frédéric Dorel.
Le séisme d'hier soir en Italie a fait 2 morts sur la petite île d'Ischia, près de Naples. On est bien loin des 300 morts d'Amatrice l'an dernier. Une famille entière a survécu à l'écroulement de sa maison. 3 garçons âgés de 7 mois à 11 ans ont dû être sortis un à un. Le père également a lui survécu parce qu'il n'était pas dans la maison au moment du tremblement de terre. Et puis la mère qui est enceinte, Antonino Gallofaro.
La famille entière est maintenant sauve. En début d'après-midi, le petit Chiro a été sorti des ruines de sa maison après 16 heures de travail ininterrompu de la part des pompiers. Avant lui, ses 2 jeunes frères ont été extraits alors que la fratrie était bloquée. C'est Chiro, 11 ans, qui a sauvé Mathias, 7 ans. Après la secousse, il l'a tiré avec lui sous un lit, ce qui leur a permis de survivre pendant plus d'une demi-journée. Puis avec l'aide d'un balai, il a frappé contre les décombres pour se faire entendre et trouver par les sauveteurs. Le dernier né de la famille, de 7 mois, sa mère enceinte et son père ont été secourus dans la nuit. La famille est à Casamicho, la village de quelques 8000 habitants au nord d'Ischia, le plus frappé par le séisme. Quelques maisons se sont effondrées après la secousse de magnitude 4, hier peu avant 21h. Plusieurs familles ont pu sortir des ruines, mais 2 femmes ont péri sous les écroulements. L'une a été retrouvée sous les ruines d'une église, l'autre sous celle de sa maison. Le drame a fait par ailleurs 2600 déplacés selon la protection civile. Aucune tente ne sera montée pour les accueillir. Ils devraient être logés dans les structures déjà existantes sur l'île.
Antonino Gallofaro en Italie pour France Bleu. En Espagne, il ne reste plus que 4 membres présumés de la cellule djihadiste d'Alcanar. Les 8 autres sont morts, soit abattus par la police après les attentats de Barcelone et Cambrils, soit dans l'explosion de la maison qui leur servait de base. Ces 4 survivants intéressent maintenant la justice. Un juge spécialisé dans les affaires de terrorisme a commencé à les interroger. Ils viennent d'être inculpés d'assassinat terroriste et ils parlent. L'un d'eux admet que la cellule préparait une attaque plus importante. 32 Français ont été blessés jeudi en Catalogne, 12 sont toujours hospitalisés et 3 dans un état grave. À Balaruc, près de Montpellier, des bancs anti-intrusion vont faire leur apparition dans l'espace public, plus joli que les plots de béton qui fleurissent dans les centres-villes depuis les attaques à la voiture bélier. Ils font l'unanimité parmi les passants de la petite cité thermale Morad Jabari.
Plantée face à l'étang de Thaux, la dizaine de bancs en béton blanc poli en forme de demi-lune épouse parfaitement le paysage. À présent, le trottoir est infranchissable et ses bornes anti-intrusion passent inaperçues.
Ça nous permet de nous asseoir le soir quand on se balade, donc c'est sympa.
C'est joli, ça plaît beaucoup aux chiens parce qu'il y fait pipi dessus.
L'été dernier, après l'attentat à Nice sur la promenade des Anglais, Balaruc s'est équipé pour sa propre promenade de blocs de béton bruts, disgracieux et anxiogènes. Donc Gérard, un habitant, est conquis par ces nouveaux bancs.
Font office de banc également. C'est sécurisant parce que en plus c'est un endroit ici où les gens se rassemblent beaucoup puisqu'on fait des combats de joutes, il y a pas mal d'animations qui se créent. Je pense que s'il y avait quelqu'un de mal intentionné qui arriverait avec une voiture et passer sur cette piste, ça ferait énormément de dégâts.
Sécuriser la promenade sans dénaturer la vue imprenable sur l'étang de Thaux, c'était le double objectif du maire Gérard Canova.
Ces bancs-là permettent peut-être psychologiquement d'être dans notre état d'esprit. La protection est exactement la même que pour des des blocs de béton. L'esthétique est complètement différente. Ils sont très costauds, qui peuvent résister à une attaque éventuelle par voiture bélier ou camion bélier.
Un effort esthétique qui a quand même un coût. La mairie de Ballaruc-les-Bains a déboursé 65 000 euros.
Et si vous voulez savoir à quoi ressemblent ces bancs, ils sont en photo sur notre site internet francebleu.fr. Morad Djabari, France Bleu Héros. Les rixes reprennent à Calais entre migrants. Plusieurs bagarres ont opposé des Afghans et des Érythréens. Cette nuit, près de 200 réfugiés au total se sont affrontés à coups de barres de fer ou de bâtons pour certains. Et ça a recommencé cet après-midi pour des broutilles. Et à cause de la tension, disent les associations, il n'y a plus aucune installation dans le secteur pour accueillir les migrants qui continuent d'affluer. Stéphane Barbereau.
On peut parler de rixes géantes. Jusqu'à 150 migrants ont pu s'affronter. Des Afghans opposés à des Érythréens, armés de battes de baseball, de bâtons ou encore de pierres. Difficile de connaître l'origine de ces bagarres. On évoque un téléphone portable qui aurait été volé, des Érythréens qui consomment de l'alcool, ce que ne supporteraient pas les Afghans, ou encore une bataille entre passeurs pour s'assurer du monopole sur un parking de poids lourds qui prennent la direction de l'Angleterre. Du côté des associations, on souligne surtout le contexte. On parle de conditions de survie impossible, très peu d'accès à des sanitaires malgré le déploiement très récent et progressif de douches et de toilettes sur injonction du Conseil d'État qui avait reconnu lui-même les conditions de vie inhumaines des migrants. Et puis, il y a aussi la surveillance policière qui générerait des tensions selon les associations. 500 CRS et gendarmes mobiles sont stationnés en permanence dans le Calaisis avec un objectif, disent ceux qui aident quotidiennement les exilés, les décourager au maximum de rester en France.
Stéphane Barbereau, France Bleu Nord. Les avions gros porteurs n'atterrissent plus à Lorient en raison d'une fissure sur la piste. Ils sont déroutés sur Brest, où les voyageurs les rejoignent en car. Les réparations sont faites, mais le retour à la normale dépend maintenant des contrôles qui ont commencé aujourd'hui. Un homme de 66 ans est mort en faisant du parapente à Sondernach sur le versant alsacien des Vosges. Il est tombé de tout son poids sur une aire d'atterrissage, sans doute à cause d'un trou d'air. Et comme il n'y avait pas de témoin, on ne sait pas de quelle hauteur a eu lieu la chute. Après le Loire et le Cher, la Loire et le Cher, la Vienne est en alerte cyanobactéries. Un chien est mort après s'être baigné dans la rivière. Au niveau de Chinon, en Indre-et-Loire, les autorités ont fait le lien avec d'autres chiens décédés dans les départements voisins. 8 dans le Maine-et-Loire, mais aussi dans le Cher, l'Indre et le Loir-et-Cher. À Orléans, la baignade est carrément interdite sur l'île Charlemagne. 19h07 sur France Bleu. Avant de nous demander pourquoi on donne de moins en moins de pourboires aux serveurs dans les bars et les cafés, avant de vous faire découvrir cette incroyable histoire de vétéran américain qui a fait croire pendant 70 ans qu'il avait participé au débarquement en Normandie, et avant de vous emmener à Belfast pour la demi-finale de Coupe du Monde de l'équipe de France féminine de rugby, cet appel des médecins urgentistes qui demandent à être reçus par la ministre de la Santé. Certaines zones n'ont plus de SMUR cet été. 4 ont été fermés dans l'Aude, en Seine-Maritime et dans la Drôme. Or, ces services mobiles d'urgence et de réanimation sont les seuls suffisamment équipés pour intervenir dans le cas de certaines urgences vitales. Cet été, le manque de moyens pour faire tourner ces structures est encore plus criant. Christophe Prudhomme est le porte-parole du syndicat des médecins urgentistes.
Les années précédentes, on citait un ou deux hôpitaux qui étaient en difficulté. Cette année, ce sont un nombre de villes et d'hôpitaux importants qui sont touchés, puisque ce sont des unités du SAMU dans l'Aude, à Quillan, à Castelnaudary, en Normandie, à Eux. On a supprimé une unité du SAMU à Dole fin mai. Une unité est menacée à Rouen. Nous avons le service des urgences de Saint-Vallier dans la Drôme qui, faute de médecins, là, pendant le mois d'août, ferme à 20h. Et donc, si les gens doivent se rendre dans un service d'urgence, il faut qu'ils fassent au minimum 25 à 30 kilomètres. C'est pas la même chose, vous voyez, de ne pas trouver un médecin généraliste ou d'attendre un peu plus longtemps aux urgences pour des pathologies qui ne mettent pas votre vie en danger. Là, ce sont des unités du SAMU qui interviennent sur les pathologies les plus graves. Donc, c'est catastrophique pour la population.
Christophe Prudhomme de l'association Médecins Urgentistes de France avec Pierre Emparent. Pour l'instant, la ministre Agnès Buzyn n'a pas répondu. La ministre du Travail aussi est sollicitée. Muriel Pénicaud suscite l'inquiétude des petites villes de France, la PVF sur les emplois aidés. L'association dénonce la précipitation dans laquelle 200 000 de ces contrats ont été gelés. De nombreuses communes se trouvent de ce fait obligées de renoncer à des embauches. Dans certains cas, il s'agit d'emplois dans les écoles. À Valorbiquet, par exemple, dans le Calvados, 5 postes d'animateurs sont en suspens alors que la commune a décidé de conserver la semaine de 4 jours et demi. Or, la rentrée, c'est dans 15 jours. Le métier de serveur attire de moins en moins les jeunes. D'après les professionnels, c'est parce que les pourboires ne paient plus, les clients donnent peu de nos jours. L'UMIH, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, réfléchit donc à un nouveau système qui inclurait directement le service dans l'addition. Angéline Demuinck est allée tester l'idée, place Stanislas à Nancy.
En matière de pourboire, à chacun ses petites habitudes.
Ça dépend des fois et ça dépend du service. L'amabilité, le temps d'attente, comment ça s'est passé en général.
On paye tout par carte, donc on a très peu de monnaie, c'est rare.
Pas beaucoup de pièces laissées sur la table donc. Maurizio, serveur depuis 20 ans, place Stanislas à Nancy, en a donc tiré une conclusion, un brin catégorique.
Les gens sont radins.
Et avec des pourboires à la baisse, pas facile de recruter, explique son responsable Tristan Vimon.
Les serveurs se font de plus en plus rares. Avant, on gagnait beaucoup, mais maintenant, on gagne beaucoup moins. Question touristes, ça va, ils ont l'habitude. Le pourboire est assez facile, mais les Français ont de plus en plus du mal à donner le pourboire. On va partir sur 20 centimes sur un plat à 15 euros. Ils vont plus arrondir la note que laisser un pourboire pour le service.
Alors pourquoi pas, comme le propose l'UMI, inclure le service directement dans l'addition?
Ça boosterait le métier de serveur parce que c'est un métier très très difficile. La clientèle ne le voit pas, mais il faut être à l'exigence du client. Des fois, ce n'est pas facile. Et un pourboire, sachant qu'on l'a automatiquement, ça arrangerait beaucoup de choses.
Et quel impact pour nous, consommateurs? Les professionnels l'assurent, il n'y aurait aucune répercussion sur la note.
Angéline Demuinck, France Bleu Lorraine. On va maintenant en Normandie, les plages du débarquement, avec cet ancien soldat américain qui avoue, 73 ans après, qu'il n'a pas participé au D-Day le 6 juin 44. La supercherie a été découverte par des historiens. Georges Klein a été blessé en Moselle, certes. Il a contribué à la libération de l'Europe, mais le 6 juin, il était en Irlande. Et pas à la pointe du Hoc. La surprise est totale, surtout du côté de l'association qui l'a fait venir en juin dernier au moment des commémorations. La trésorière de D-Day Overlord, Nathalie Marie, s'explique mal comment un mensonge est possible à un tel niveau.
L'histoire de Georges, moi je l'ai entendue plusieurs fois. Il n'y a rien dans l'histoire qui me semblait irréel. Il a fait une conférence de 2 heures. Il a parlé de ce qui s'est passé avec des trémolos dans la voix. On n'a absolument rien décelé. Moi, personnellement, quand j'ai appris que Georges avait menti sur le fait d'avoir débarqué le 6 juin, j'ai été anesthésiée, je suis encore sous le choc. Il nous a dupés, mais voilà, il y a le fait que ça reste quand même un vétéran et... Bon, c'est important que l'histoire soit remise exactement dans son contexte, mais comment on peut duper des centaines de personnes, sincèrement, je ne sais pas.
Le mystère de Georges reste entier pour la trésorière de l'association D-Day Overlord. L'équipe de France de rugby pourrait réaliser une première ce soir, sortir l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du Monde et accéder ainsi à la finale après 6 échecs à ce niveau de compétition. Ce sera à Belfast, en direct à nouveau sur France 2. La semaine dernière d'ailleurs, les Bleus ES ont rassemblé plus de 2 millions de téléspectateurs pour leur prestation contre l'Irlande. Ce soir, ce sera sûrement plus, Fanny Lechevestrier. Cela dit, comment ça se présente pour les Françaises ?
Alors là, vous entendez beaucoup de bruit, c'est pas parce qu'il y a les Françaises encore sur le terrain, mais c'est parce que les Américaines viennent de marquer un essai. On est dans la première demi-finale face à la Nouvelle-Zélande. Alors pour vous revenir à nos Françaises, eh bien, c'est vrai que ça s'annonce beaucoup, beaucoup moins facile que les tours précédents où les Françaises avaient su creuser l'écart dès la première période. Là, en face, ce sont tout de même les Anglaises, championnes du monde en titre, qui ont remporté cet hiver le tournoi Destination en réalisant au passage le Grand Chelem. Et puis, il y a cette statistique que vous entendez beaucoup depuis ce matin. Les Françaises en sont déjà à 6 demi-finales et à chaque fois, ça s'est soldé par 6 défaites. Donc, ça ne va pas être évident. Mais voilà, elles surprennent ces Françaises depuis le début de cette Coupe du Monde. Vous savez, elles ne sont pas professionnelles et pourtant, là, on les voit très préparées physiquement. Elles ont eu 2 mois de préparation ensemble avec un stage, notamment à fonds romeux. Il y a eu un accord entre la fédération et les entreprises pour permettre cela. Et finalement, eh bien, ça change tout. Et il y a bon espoir pour ce soir. En plus, il y a énormément de supporters français pour pousser derrière elle.
Merci Fanny Lechevestrier. Vous avez raison, c'est important l'espoir. Donc en direct de Belfast pour France Bleu, le coup d'envoi de ce France-Angleterre sera donné à 20h45. On suivra aussi le match retour des Niçois face à Naples en barrage de Ligue des Champions. C'est du foot cette fois. À l'aller, l'OGC Nice a été battu 2-0. Et puis pour les nostalgiques de Patrick Swayze, Dirty Dancing a 30 ans. Le film est sorti en août 87. Et depuis, cette chanson, Time of My Life, fait craquer les fans. Dirty Dancing, film culte de la fin des années 80. Et ça fait 30 ans que ça dure, donc la météo est à suivre. Et juste après, ce sera Marc Tosca et Pop Story sur France Bleu.
Pour emporter France Bleu partout avec vous, s'informer, se divertir, télécharger et installer gratuitement l'application France Bleu sur votre smartphone.
Alors le temps pour demain, c'est mitigé entre nuages et éclaircies le long de la Manche et de l'Atlantique. Début de journée nuageux et parfois même pluvieux, mais retour du soleil dans l'après-midi. En revanche, à l'est et dans le sud, temps lourd et quelques risques d'averses à prévoir en fin de journée. Côté température, pas plus de 22 degrés demain matin, maximale 23 dans le nord, entre 23 et 28 sur la majeure partie du pays et jusqu'à 34 en Provence.